On va voir immédiatement avec Martial Foucault, professeur à Sciences Po, dans quelle mesure en France on a une situation possible de récupération politique. Votre analyse de ce qui s'est passé ce week-end et qui continue, puisqu'on annonce en ce moment même quelques nouveaux barrages en France des Gilets jaunes. Qu'en est-il selon vous de ce mouvement, a priori un mouvement atypique, Martial Foucault ?
Pardon. Oui, atypique parce que effectivement atypique à la fois dans sa genèse, sa formation, vous l'avez rappelé, spontanée, née principalement sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de nouveau en France, et puis aussi atypique dans le sens où on a beaucoup parlé, ça vient d'être évoqué à propos de ce mouvement Gilets jaunes en Belgique, c'est un mouvement qui avant tout souhaitait être présenté comme apolitique et asyndical. Alors, je pense que la notion apolitique est discutable parce que pour moi, ça révèle plutôt un mouvement très politique parce que il est à la fois, on voit bien que sur les revendications, elles sont nombreuses et disparates. On a beaucoup parlé de la hausse des carburants, mais c'est aussi le pouvoir d'achat. D'une certaine manière, c'est la question de l'enclavement d'un certain nombre de territoires. Ça touche également la question de la mobilité de ces personnes dans l'ensemble des villes. Alors je ne sais pas si ce sont seulement des villes périphériques. On a bien vu que c'était très très dense. Plus de 2000 points de blocage. C'est quelque chose d'inédit dans le mouvement social français récent. Il faut remonter peut-être à 1995 pour voir une telle importance dans le maillage. Mais je dirais aussi très politique parce que ce que souhaitent ces l'ensemble des personnes qui sont mobilisées samedi et qui ont continué hier, c'est rompre un peu avec cette relation très verticale. C'est-à-dire le représentant et les représentants et les représentés. Et pour moi, je dis très politique parce que d'une certaine manière, c'est le travail qu'aurait pu effectivement. On ne sait pas si les syndicats ou les partis politiques s'étaient mêlés à cette mobilisation, à cette contestation, il y aurait eu le même succès. Hein, c'est très difficile à dire. Mais au fond, hier, on a découvert des gens qui ne voulaient pas nécessairement tout de suite être entendus par des représentants. Vous voyez que c'était très diffus, c'était très compliqué, mais il joue le rôle au fond d'un corps intermédiaire, c'est-à-dire cette manière de vouloir poser alors que des structures déjà existantes, partis politiques et syndicats, ces manifestants ont expliqué, bien souvent c'est la première fois qu'ils manifestaient, ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas les codes, les réflexes pour pouvoir faire porter une parole publique sur un enjeu de politique publique, et derrière cette notion et cette thématique de pouvoir d'achat, au fond ils sont principalement désemparés parce qu'ils n'ont pas d'interlocuteurs et ils n'ont pas cette habitude de la médiation.
Vous avez évoqué la mobilisation de 1995. Il faut rappeler en quelques mots, Martial Foucault, en quoi consistait cette colère contre une réforme de la SNCF, des retraites. Notamment, il y avait à l'époque un mouvement syndical. Au début, c'était un mouvement spontané.
Non, le mouvement n'a pas été spontané, c'était un appel d'un certain nombre de cellules syndicales face à la proposition de réforme à la fois des retraites et du système général, et puis ça s'est amplifié en forte gronde sociale sur
un
ensemble.
Est-ce que ça a dépassé les centrales syndicales à l'époque ?
Oui, bien sûr, parce que ça a rejoint à la fois les étudiants, ça a rejoint des retraités, ça a rejoint des fonctionnaires. Donc il y a eu cette fameuse convergence durant l'hiver 1995. Depuis quelques jours, on voit bien que cette notion est certainement ce qui explique le malaise d'un certain nombre de partis et de formations politiques de vouloir s'agréger à cette contestation, parce que on ne sait pas d'ailleurs si on devait faire une radiographie politique et électorale de ces 300 000 personnes qui se sont mobilisées, mais d'autres sont, d'une certaine manière, on avait entendu des chiffres beaucoup plus importants parce que la réponse à l'appel à la mobilisation était beaucoup plus grande sur les réseaux sociaux. Si on devait faire une radiographie électorale, c'est très difficile de savoir. Est-ce que ces personnes sont au fond, ne sont pas principalement les abstentionnistes des précédentes élections nationales ou locales ? On ne le sait guère. Est-ce qu'ils sont plus proches d'un discours porté par l'une des formations politiques ? Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a aussi probablement un certain nombre de déçus d'Emmanuel Macron, et donc ce ne sont pas des personnes qui ont, dès 2017, porté un regard très critique vis-à-vis de la politique d'Emmanuel Macron.
Est-ce que cette colère peut s'agréger avec d'autres colères, Martial Foucault ?
d'autres colères. Je pense que les revendications nous ont déjà permis d'en savoir un petit peu plus. C'est-à-dire que c'est pas que la question, et ce n'est pas seulement la question de la hausse des carburants, c'est plus largement la question du pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, on voit que ça touche de considérables dimensions. C'est-à-dire que c'est à la fois la question, bien sûr, de la fiscalité, mais c'est aussi la question du niveau de vie, c'est à la fois la question du logement, la question... Moi, je pense qu'il faut surtout regarder sociologiquement et presque faire un petit peu de géographie des mobilisations sociales, d'observer que la mobilisation dans les centres urbains, dans les métropoles, a été beaucoup plus faible rétrospectivement et comparativement à ce qu'elle est dans une France qui est pas seulement rurale. Au fond, c'est un certain nombre de villes, de communes dans lesquelles les gens, je dirais, concentrent ce qu'on pourrait appeler les travailleurs pauvres. Ce sont pas des gens qui n'ont pas qui auraient échoué. Non, c'est pas ça. Ils ont des positions économiques, mais pour eux, et c'est ce que rappelait une enquête la semaine dernière, c'est-à-dire que les fameux fins de mois où on apprend que presque un quart des Français appartenant aux catégories sociales non pas défavorisées mais catégories sociales inférieures ont beaucoup de mal avec leur fin de mois. Donc c'est cette agrégation qui a pris la parole et qui a décidé de manifester samedi dernier.
Et oui, dans ce mouvement, on retrouve typiquement en fait les colères démocratiques décrites par Tocqueville. Tocqueville qui disait par exemple: chez les peuples démocratiques, les hommes obtiennent aisément une certaine égalité. Ils ne sauraient atteindre celle qu'ils désirent. On voit bien que cette revendication du pouvoir d'achat, qui est une revendication intéressante, parce que si on suit en fait les alternances de colère, il peut y avoir des mouvements contre le chômage, et bien souvent c'est la gauche qui porte un mouvement contre le chômage, et puis des mouvements pour le pouvoir d'achat, bien souvent portés par la droite. Ce sont des mouvements qui ont une signification différente, Martial Foucault.
Oui, non, vous avez raison. En citant Tocqueville, on peut aussi repositionner ces mouvements dans une plus longue histoire française. L'Ancien Régime, c'est aussi ces mouvements spontanés en France, ces fameuses jacqueries, mouvements spontanés de paysans qui se mobilisaient contre la hausse des impôts, la répétition de la hausse des impôts. Et donc, finalement, depuis près de 4 siècles, il y a toujours une résurgence. Alors on n'appellera plus ça des jacqueries paysannes aujourd'hui, mais il y a toujours une résurgence face à une situation. C'est une combinaison de deux éléments. À la fois, je dirais, une augmentation qui pèse considérablement sur le pouvoir d'achat et le niveau de vie, deux choses différentes des Français, et en même temps qui correspond à une situation de contestation politique. Et quand je disais que ce mouvement est très politique, il soulève pour moi, enfin en tout cas il met en tension aujourd'hui une insatisfaction dans la relation de représentation entre ces personnes et le pouvoir. Et bien sûr, il y a ce moment électoral fort, et on voit bien qu'il y a des tensions dans plusieurs pays en Europe dans cette difficulté de la façon dont la démocratie représentative aujourd'hui fonctionne. Et il faudrait peut-être raisonner différemment. Est-ce que c'est seulement une question de démocratie représentative, ou bien est-ce que c'est la question de la représentation démocratique qui aujourd'hui pose difficulté? Donc cette grogne, elle est double. Je dirais que on doit pas écarter trop vite cette idée que de mon point de vue en tout cas, elle va aussi affaiblir les partis politiques, elle va affaiblir les syndicats qui sont en France, on le voit au fil des enquêtes, qui sont jugés trop politisés. Or, que demande hier ce mouvement? Ce mouvement, il demande ni plus ni moins de faire et de relayer une parole qui, par le passé, même un passé récent, était un travail mené par les syndicats politiques en France.
On sent qu'il y a aussi une sorte de lassitude de la France moyenne. Alors on peut appeler ça donc colère, grogne, lassitude. Est-ce que l'on peut mettre en rapport ce mouvement des Gilets jaunes avec un mouvement de colère que vous avez particulièrement étudié, Martial Foucault, le mouvement de colère des maires?
Oui, il y a en commun entre ces deux mouvements, je dirais, deux éléments. Le premier, c'est une relation, une forte relation de défiance qui s'est installée entre à la fois des représentants vis-à-vis du pouvoir central et de ces Français qui rencontrent de graves et d'incessantes difficultés pour leur fin de mois. Donc il y a cette première dimension commune qui est forte méfiance et défiance. Et puis il y a une deuxième élément, c'est le territoire. D'une certaine manière, ce que les maires et ce que les gens qui ont manifesté samedi nous disent, c'est que la République des territoires est en panne. Il y a véritablement une fracture qui s'est creusée sur la question des maires. Et d'ailleurs, ça traduit. Je lisais, je regardais quelques reportages hier. On voit des appels de certains de ces gilets jaunes à aller manifester aujourd'hui devant des mairies. Donc, on voit bien que les maires vont se retrouver exposés devant un mouvement social dont ils ne maîtrisent ni le début ni la fin d'une quelconque réponse crédible, immédiate, qu'ils pourraient apporter. Et puis, il y a un deuxième élément qui est pour moi important, je l'évoquais tout à l'heure, c'est aussi la question des mobilités. C'est un mouvement qui est très très long. On voit bien que, si vous voulez, depuis 40 ans, le modèle français s'est construit, d'ailleurs, d'un point de vue sémantique, c'est très intéressant, s'est construit sur une attention particulière apportée à l'aménagement du territoire, qui est devenu aujourd'hui une question de cohésion des territoires. C'est pas tout à fait la même chose en termes d'intervention et de rôle de l'État. Il s'agit pas de faire revivre les grandes heures de la planification territoriale, mais on observe bien qu'il y a eu une accélération de cette métropolisation de la France, avec des métropoles puissantes où se concentre du capital économique, du capital culturel, du capital social. Et puis, à côté de cela, vous avez des villes moyennes, même parfois grandes, qui ont dû subir une crise, deux crises. 2008 a été extrêmement violent pour ces villes. Et l'État ne peut pas, d'une certaine manière, réagir en permanence et pouvoir assumer, alimenter, j'allais dire, l'investissement et une commande publique qui fait vivre beaucoup de ces territoires. Donc là, aujourd'hui, il y a une vraie question qui se pose pour le rôle de l'État, et pas seulement l'État jacobin, parce que on voit bien que si ces maires aujourd'hui contestent, c'est précisément contre ce jacobinisme contradictoire avec le mouvement de décentralisation initié au début des années 80.
Il y a un commentateur aujourd'hui dans l'actualité, le géographe Christophe Guillouis. Il est par exemple interrogé dans le Figaro. Et alors lui estime que ce mouvement des Gilets jaunes, il corrobore ses thèses notamment sur la France périphérique, une France qui est, dit-il, une France oubliée, tandis qu'on s'occupe des grandes villes, on s'occupe aussi des banlieues. En revanche, on laisse complètement tomber cette France-là, cette France qui a besoin de la voiture, cette France qui est dans des villes moyennes dont le centre-ville est de plus en plus déserté. Qu'en pensez-vous, Martial Foucault ?
Il y a deux éléments. Il y a la thèse propre de Christophe Guillouis qui à la fois, je dirais, part d'observation qu'on peut nullement contester. Est-ce que pour autant on peut en tirer une loi générale comme il tente de le faire? L'INSEE a réagi, hein, et il y a après Fracture française, son premier ouvrage, en disant la typologie proposée par Christophe Guillouis n'est pas totalement opérationnel, puisqu'on démontre le contraire. Finalement, là où il y a les lieux de pauvreté les plus forts, ce n'est pas en périphérie, c'est précisément dans les centres urbains. Et ça traduit, je pense, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les Gilets jaunes, c'est pas seulement une France des à la fois des territoires et des Français qui sont extrêmement précaires ou fragiles économiquement. Un certain nombre d'entre eux ont un emploi, même parfois deux emplois, un ménage, des enfants. Donc, dire que la périphérie a été totalement délaissée socialement, économiquement, culturellement, oui, mais on peut pas. Je crois qu'il est beaucoup trop tôt et on n'a pas encore tous les éléments pour pouvoir mesurer précisément si c'est seulement la périphérie qui aujourd'hui est au banc d'une certaine manière de cette République des territoires. En revanche, il est certain, comme je disais à l'instant, il est certain que à la fois l'État donne, j'allais dire par sa politique, et c'est pas toujours volontaire, mais donne un poids et une importance plus grande aux métropoles, qu'aujourd'hui les transformations économiques poussent un certain nombre de Français à quitter ces centres urbains pour des raisons à la fois de transformation du marché du travail, pression immobilière. Et ces personnes, on l'a connu en France dans les années 60, cette fameuse France pavillonnaire où on découvrait que l'on pouvait finalement réussir, atteindre la prospérité économique en s'installant à l'extérieur, ces pavillons, ces jardins. Aujourd'hui, ce modèle n'existe plus. Il n'est plus possible. écoles, parce que en s'éloignant de ces centres, finalement, on perd, et c'est la thèse partagée par d'autres géographes, on perd ce lien social, ce lien culturel qui se concentre dans ces grandes métropoles.
Et justement, est-ce qu'il peut y avoir une traduction politique de cela? Parce que bon, les politiques font de la politique, donc on voit dans vos journaux ce matin des leaders, par exemple Laurent Wauquiez, le leader des Républicains, qui est allé donc à la rencontre de ces gilets jaunes. On a entendu également Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen a été plus mesurée, elle a dit que les électeurs du Rassemblement National se reconnaissaient dans ce mouvement. Une récupération politique est-elle possible aujourd'hui, Martial Foucault ?
Il est vrai que plusieurs leaders politiques souhaiteraient certainement, en tout cas, ouvrir une discussion, essayer d'agréger cette colère populaire à leur mouvement politique. On voit qu'il y a malgré tout un vrai malaise parce que, on le disait tout à l'heure, ces responsables politiques sont à la fois prudents, je dirais vraiment une grande prudence, parce qu'on ne sait pas ce que ce mouvement sera fait demain. C'est très difficile. Et puis, deuxièmement, comme tout mouvement politique, bien sûr, on peut essayer d'agréger la colère populaire et donc dire, et ça pourrait être effectivement le discours de Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen en indiquant que ce qu'ils avaient pu répéter pendant la campagne présidentielle 2017 en disant, vous savez, sur ce fond de d'émergence d'un populisme français, le peuple contre les élites, c'est vrai que d'une certaine manière, les gilets jaunes incarnent, non pas ce populisme, mais incarne cette rupture entre le peuple et des représentants à leur écoute. Donc, moi, je pense qu'il y a une vraie prudence parce que ces responsables politiques ne connaissent pas exactement à la fois la cartographie des valeurs de ces Français qui ont manifesté, beaucoup de mal à savoir si ce sont des électeurs plutôt du Front National, plutôt de la France Insoumise. Moi, je pense que une bonne partie d'entre eux sont aussi des abstentionnistes qui n'ont effectivement pas l'habitude de ces luttes sociales. Donc pour les partis politiques, bien sûr, il y a une échéance, ce sont les élections européennes. Et tout ce qui peut représenter une forme de contestation, d'opposition au pouvoir en place est certainement une bonne chose à prendre pour ces responsables politiques. Mais de là à penser, contrairement à 1995, puisqu'on parlait de ce mouvement de grève, où il y avait eu clairement... alors, c'était pas une récupération parce que les partis politiques étaient eux-mêmes dans la rue, mais il y avait eu les bases de ce qui allait conduire à cette dissolution manquée par à l'époque le RPR et qui avait permis à la gauche et notamment le Parti socialiste de reprendre le pouvoir dès 1997.
Donc on est dans une situation qui est différente, avec une traduction possible pour la prochaine élection, autrement dit l'élection des représentants européens.
Oui, il y a alors d'autant que c'est très intéressant de voir si cette contestation peut se diffuser en Europe ou bien est-ce que d'autres mouvements identiques vont pouvoir émerger. Il reste 6 mois. On sait combien il est compliqué pour qu'un mouvement aussi spontané puisse se transformer en contenu politique et puisse peser dans le jeu électoral.
Merci Martial Foucault. Je rappelle que vous avez notamment publié Ville de gauche, ville de droite aux presses de Sciences Po. Vous avez fait aussi ce sondage qui est consacré aux maires de France avec donc comme conclusion une colère de ces maires. Et puis dans quelques instants, dans le cadre de ces matinales politiques que vous retrouvez dans les matins de France Culture, et comme le CSA nous le suggère, eh bien, nous inviterons un représentant du Rassemblement National, Gilbert Collard, député du Gard, sera à ce micro dans une vingtaine de minutes. On va lui demander quelles sont les relations que le Rassemblement National entretient avec ce mouvement des Gilets jaunes. Nous allons accueillir Gilbert Collard. Bonjour, vous êtes député du Gard, Gilbert Collard, et nous aimerions tout d'abord avoir votre point de vue sur ce mouvement des Gilets jaunes, sur ce que vient de dire Frédéric Saïs.
Le commentaire qui vient d'être fait n'appelle aucune critique. J'y adhère avec ce correctif qu'il est Ne le prenez pas mal, hein, je me l'applique à moi-même à longueur de journée, hein, parce que j'ai malheureusement pas le moyen d'entrer dans le cœur de la réalité toujours. Hein. Il est un peu scolaire, voilà. Bon, il est un peu scolaire, mais ce que je vais dire est scolaire aussi, dans la mesure où je suis comme vous, hein, je ne suis pas un explorateur du fin fond de la réalité. Bon, ce que je trouve intéressant, ce sont nos rôles de commentateurs. Vous commentez avec beaucoup d'intelligence parce que j'adhère complètement à tout ce que vous dites. Hein. Mais ça s'arrête aux commentaires. On est comme impuissant, si vous voulez. Enfin, c'est du moins ce que je ressens. Je peux me tromper. On est comme impuissant à entrer dans la réalité sous-jacente. On se met d'accord sur ce terme de ce qui se passe. Je me rappelle un cours extraordinaire d'histoire du droit. Que faisait le professeur Méninger, je me rappelle de son nom, sur la Grèce préhomérique. Vous voyez, c'est bon. Et il essayait de nous donner quelques éléments de compréhension du cheminement de l'histoire. Et j'ai retenu cette phrase qu'il avait prononcée. Il nous avait dit « L'histoire fonctionne par phénomène d'érosion. » Et il y a une première lame qui érode. On la voit pas. On la voit pas. Il y en a une deuxième qui érode un peu plus. On la voit pas. Et puis, ainsi de suite, jusqu'au jour où la falaise, sous la lente érosion, s'effondre. Voilà. Si on prend la Révolution française, par exemple, on peut lire tous les historiens. Moi, je me suis passionné pour cette période, que ce soit les historiens marxistes ou les historiens nationalistes. Franchement, il y a un conglomérat d'explications, mais la raison mythique, on l'a pas. Et je me demande si aujourd'hui on n'est pas confronté quelque part à la même incapacité des pouvoirs publics, de tous les politiques. Hein. Je me mets dans l'eau, hein. Comme je vous mets dans l'eau aussi, hein, parce qu'on est comme des, j'ose pas employer un terme déplaisant, mais voilà, on l'emploie pas, on est comme des aveugles.
D'ailleurs, Frédéric
XVI
a une question à vous poser.
On est comme des aveugles en présence d'un phénomène qui en dit beaucoup sans qu'on arrive à l'interpréter. Bon, ces gilets jaunes, entre nous, ce qui est extraordinaire quand même, c'est la chosification de tous ces mouvements. Il y a eu les bonnets phrygiens. On était passé à côté à l'époque, hein, le bonnet phrygien. Vous vous rendez compte la dimension qu'il a prise dans l'histoire. Bon, alors 30 secondes, on ne tient pas compte de l'intégration économique. C'est ce qui provoque, à mon avis, cette colère. Et tous ces gens, confondus, demandent une préservation d'un capital social, à mon avis, et culturel. Voilà.
Alors, Frédéric Seyss. Vous parliez scolarité, vous êtes parti dans une dissertation, pour le coup, et parfois oui, peut-être à la limite du hors-sujet.
C'est pas critique, hein, le prenez
vous,
pas mal. Hein.
Non, pas du tout. Vous êtes député de la Nation, vous avez donc forcément à la fois un diagnostic, mais aussi des solutions. On a vu beaucoup d'acteurs politiques et syndicaux, depuis hier, réclamer une grande conférence sociale des états généraux de la transition écologique et du pouvoir d'achat. C'est notamment le cas du Parti Socialiste, de Laurent Berger de la CFDT, de Daniel Cohn-Bendit. Ce sont des gens avec lesquels vous n'êtes pas souvent d'accord, mais est-ce que, sur le fond, c'est une mauvaise idée.
Non, mais attendez, Daniel Cohn-Bendit, franchement, lui qui dit, je le cite, hein, 200 000 à 300 000 personnes, il faut arrêter de dire que c'est le peuple. Non, mais quand même, Daniel, réveille-toi, prends ton fortifiant. Vous étiez combien au début en mai 68 ? Vous étiez combien ? Mais le peuple, c'est d'abord l'émanation du peuple qui appelle le peuple. Le peuple, il n'a jamais surgi massivement dans toute l'histoire.
Et sur le fond de son idée.
C'est encore une idée de mondain, une idée de salon. Ça va apporter quoi au type qui doit faire 35 kilomètres pour aller bosser? Ça va apporter quoi à tous ces braves gens qu'on a vus, qui peut-être votent contre nous, peut-être votent pour nous, mais essayons
peut-être
d'aller...
Peut-être ne
votent pas. Bravo. Et surtout, ne votent pas. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne votent pas. Ça va leur apporter quoi?
Mais alors, est-ce que d'après vous, Gilbert Collard, c'était une réussite, cette mobilisation? Est-ce que c'est un succès en demi-teinte? C'est par exemple ce que disait hier le journal du dimanche. Qu'en pensez-vous, vous?
Moi, je pense que c'est... D'abord, j'ai pas envie de parler en termes de réussite ou d'échec. Parce que ce sont des termes quantitatifs. Et je crois qu'on est dans le qualitatif. Mais un qualitatif historique. Est-ce que la spontanéité des masses existe ou n'existe pas? Vieux conflit entre les marxistes et les anarchistes. Moi, je crois qu'elle existe, la spontanéité des masses. Je crois qu'il peut y avoir, à un moment donné, une espèce de circuit des colères qui fait que le peuple, c'est pas une jacquerie, comme on l'a dit, on essaye de trouver des comparaisons dans l'histoire qu'on n'a pas. Bon, non, c'est une espèce de fatigue devant la vie quotidienne. Des gens harassés qui essayent de verbaliser, d'actualiser leur souffrance et leur colère. Toute position politique confondue. Alors on dit, c'est l'expression d'un ras-le-bol. Je crois que ça va encore plus loin que ça. C'est l'expression d'une difficulté à vivre dans le monde tel que les hommes politiques, les universitaires, les journalistes l'ont laissé s'organiser. On souffre. Voilà, ce cri en jaune, il faut l'entendre comme un cri de souffrance. Et c'est très difficile d'autopsier un cri de souffrance.
Donc, qu'est-ce que vous proposez? C'est ça qu'on aimerait savoir. Vous êtes un responsable politique, vous avez forcément un avis, vous avez forcément des propositions, vous avez forcément
réfléchi. Oui, moi je proposerais d'abord qu'on cesse de créer des catégories culturelles, voyez-vous. Qu'on cesse d'un côté d'avoir les intellos qui savent tout, et le peuple, c'est celui qui fume des clopes et qui roule en diesel.
Vous voyez. Reprenez le propos de Benjamin Griveaux. Oui, mais qu'est-ce que vous proposez sur le fond pour les gens qui disent je n'arrive plus à payer mon carburant?
Oui, voilà. Mais d'abord, je voudrais tout simplement, ça va vous paraître banal, mais qu'on reprenne tous les rapports de la Cour des comptes, tous, et qu'on en tienne compte de la Cour des comptes. L'idée révolutionnaire que j'ai, qui est d'une banalité extraordinaire, c'est qu'on tienne compte des rapports de la Cour des comptes sur la dépense publique, sur la gabegie des subventions.
Voilà, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, il y a trop de dépenses et que ces dépenses pèsent sur ces gens.
Non, mais surtout, on ne tient aucun compte des indications qui sont données par des hommes compétents, je parle de la Cour des comptes, qui ne font pas de politique, qui disent attention à la dépense publique, attention les subventions là, arrêtez, attention les dépenses de ministère, arrêtez, attention à ceci, ils le disent. Moi, l'une des lectures les plus intéressantes pour moi, ça va vous paraître un peu masochiste, c'est la lecture du rapport de la Cour des comptes.
Mais alors qu'est-ce que vous avez retenu par exemple dans ce rapport?
Sur la dépense publique, tous les conseils qu'ils donnent pour la diminuer, on prend le rapport, on l'applique, sur la gabegie dans les ministères, sur les superstructures administratives qui ne servent à rien, sur les prébendes, le conseil économique qui sert à toutes ces dépenses inutiles, tous les frais absolument incroyables qui nourrissent toute espèce de nomenclature, tout ça, il faut en tenir compte. Et puis il faut à mon avis qu'on ait une simplification dans la communication de la parole. Et puis, qu'on ait un Parlement aussi.
Moi, je pensais que le Rassemblement national luttait contre le démantèlement des services publics. Or, dans ces dépenses, il y a des dépenses utiles, j'imagine.
Mais qui dit le contraire?
Quelles sont celles qui vous paraissent inutiles?
Par exemple, on va supprimer les tribunaux d'instance. Bon. Moi, je trouve que c'est dramatique. Parce que j'ai connu le bon fonctionnement des tribunaux d'instance en tant qu'avocat. Bon. Et je peux vous dire que c'est une justice du quotidien qui fait du bien. Moi, j'ai vu des salles d'audience où il y avait 40 personnes, un président du tribunal d'instance qui écoutait, Bon, ça fait du bien, on en a besoin de ça. On n'est pas l'Amérique et battons-nous pour ne pas devenir l'Amérique.
Sur la question...
Frédéric Saïs.
Des carburants, pardon d'y revenir, mais c'est le centre de
60%
de
taxes, on a tout dit.
Colère, exactement. Mais alors, je voudrais vous poser une question autour du programme du Rassemblement National dont vous êtes député et de celui de Marine Le Pen en 2017. J'ai lu attentivement, elle proposait d'en revenir au protectionnisme, le protectionnisme intelligent, ce qui veut dire finalement taxer les produits d'importation, ce qui est un choix qui peut évidemment se défendre parmi d'autres, mais le pétrole, pour le coup, on l'importe massivement. Comment est-ce que vous pouvez à la fois proposer le protectionnisme sur le pétrole et en même temps dire que il y a une colère légitime parce que l'essence est trop chère?
Alors, excusez-moi, mais je vois pas la contradiction. Mais vous allez me la développer.
Il y a un léger lien entre le pétrole et le carburant, si je ne m'abuse.
Non, vous avez raison. Mais en quoi le protectionnisme intelligent, qui par définition est intelligent, serait bête quand il s'agit du gasoil ou de l'essence?
C'est la question que je vous pose. Vous taxez le pétrole à son entrée sur le territoire, comment faites-vous pour le faire baisser?
Mais vous connaissez, je suppose, le détail des 60% de taxes qui frappent le gasoil et l'essence. À votre avis, on pourrait pas quelque part diminuer cette taxation, on pourrait pas.
Vous pensez à quoi, Gilbert Collard?
Moi, je pense, par exemple, qu'on pourrait. Alors, bien sûr, on va me dire qu'il y a la convention de Varsovie qui nous empêche de l'appliquer, mais le kérosène des avions pourrait faire l'objet d'une réunion entre États pour.
Ah oui, c'est des gens de très haut qui sont dans les avions qui ne sont pas taxés alors que.
Pour qu'on le taxe. Alors, on vous dit, on peut pas. C'est la convention de Varsovie. Il y a des accords internationaux, mais enfin, on peut toujours régler ces problèmes-là. Bon, et puis, pourquoi on s'intéresse pas à Total quand même?
Qu'est-ce qu'on trouverait si on s'intéressait à Total?
À l'entreprise, mais il faut la taxer. Elle fait des bénéfices colossaux. Il faut avoir des mesures fiscales draconiennes à l'égard de Total. Pourquoi emmerder le consommateur d'essence? Total, c'est une superstructure qui est ramifiée dans tous les domaines et qui a des fortunes. Pourquoi ne pas la taxer?
Alors, parmi les justifications de cette taxe, il y a évidemment le fait que l'on considère qu'une fiscalité écologique est importante aujourd'hui, que le diesel est une nuisance du fait des particules fines. Qu'en pensez-vous et qu'en pense le Rassemblement national? On voit qu'il y a quand même une vague écologiste, par exemple en Allemagne. Quel est votre point de vue?
L'Allemagne, je suis désolé, bon, même si le président de la République, quand tout va mal en France, va à Berlin, c'est pas ma référence, hein. Alors là, Madame Merkel, je suis désolé, je la laisse à qui l'aime, mais elle n'est pas ma référence, hein. Bon, écoutez, on a vendu du diesel, vous le savez très bien, pendant des années. On a tout fait pour que le consommateur, on est d'accord, on a tout fait pour que le brave Français achète diesel. Maintenant, on lui dit, terminé. Non, c'est vrai que la menace de détérioration de notre environnement est réelle, et qu'il faut le prendre en compte, mais on ne décrète pas d'un coup comme ça des décisions qui impactent la vie de tous les jours. Moi, je suis, vous savez, je crois que le bon sens, qui est une forme quelque part du génie parfois, hein, doit s'imposer. Si l'on veut vraiment taxer tout ce qui pollue, qu'on aille par paliers, qu'on y aille doucement, qu'on fasse de la pédagogie, qu'on ne prenne pas des mesures massives qui impactent la vie quotidienne des braves gens, avec un ministre en plus qui vient vous dire « je comprends la colère, je comprends la souffrance, je comprends l'absence de perspective ». Mais c'est un employé des pompes funèbres, Édouard Philippe, quand il parle à la télé. Eh bien quand même, on fera rien. C'est-à-dire qu'on va vous laisser dans votre souffrance, on va vous laisser dans votre colère, on va vous laisser dans votre absence de perspective, mais ça va continuer comme ça. Bon, le peuple a le droit de ne pas l'accepter.
Frédéric Seize.
1er janvier 2019, nouvelle augmentation de taxes prévue sur l'essence, plus 6 centimes sur l'essence, oui, plus ça. 3 centimes, plus 6 centimes sur le gazole, plus 3 centimes sur l'essence, soyons précis. Est-ce que vous appelez, vous, aujourd'hui, le gouvernement à renoncer à amender cette
décision? 6,5, 2,9, exactement. Mmh. Hein. Mmh. 6,5, 2,9. Oui, moi j'appelle le gouvernement à réfléchir, oui.
À réfléchir ou à renoncer?
À renoncer. Mais écoutez, c'est quand même paradoxal, on est en présence du médecin qui se penche vers vous et qui vous dit « Oui, vous êtes très malade, vous n'avez pas de perspective de traitement, vous souffrez, je m'en tape. »
Je parlais d'Edouard Philippe, là.
Eh ben oui, Edouard Philippe, c'était hier, je crois, hein, sur France 2. Hein. Bon, il fait le constat de la souffrance, de l'absence de perspective, et ben il dit « On continue, on piétine, on marche, on continue, on piétine. » Non. C'est-à-dire que à partir du moment où le constat est fait, j'essaye de le dire au-delà de la politique, hein, parce que je suis moi aussi un peu fatigué, ça va vous paraître paradoxal, de la politique, voyez-vous.
Pourquoi?
Parce que j'ai l'impression que on n'a pas le courage du vrai courage, quoi.
Vous n'allez pas démissionner vous aussi en direct, hein?
Non, moi je démissionne jamais démissionné de ma vie. Non, je démissionnerai jamais. Non, mais je crois que on manque, si vous voulez, on manque tous, mais tous. Du courage de dire, on est dans des positions politiques, parfois, et on devrait les abandonner pour dire ce qui est, quoi. Bon, au risque même d'être en contradiction, vous voyez? Au risque même d'être en contradiction.
Vous pensez à quoi, Gilbert Collin? Je pense à
la difficulté incroyable que j'ai honnêtement en ce moment devant vous à apporter un remède à la souffrance des Français, voilà. Voilà. Et ça me désespère, honnêtement. Ça me fait mal. Alors, j'appartiens au mouvement sur lequel on aime bien cracher, bon, peu importe, hein, bon, mais ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je sens que on est dans la sonorité, voyez-vous, et on a beaucoup de mal d'entrer dans la réalité. Et pendant qu'on tâtonne, qu'on vient sur les plateaux télé, radio, faire le boulot de l'occupation du vide médiatique, hein, et ben derrière ça souffre. Derrière ça souffre. Et moi, je me sens désespéré de ne pas pouvoir agir.
Enfin, c'est pas une souffrance métaphysique quand même, c'est une question de taxe. Alors, peut-être que dans le
programme
du Rassemblement National, il peut y avoir... Vous avez dit tout à l'heure que la Révolution française, c'était pas le modèle.
J'essaye d'être...
Peut-être que j'ai utilisé
la langue de bois, hein. Bon,
pas du tout. J'ai peut-être tort, hein. Non, il faut pas faire de langue de bois, mais simplement, si c'est une question de fiscalité, il y a peut-être dans le programme du Rassemblement National une autre fiscalité envisagé.
Mais nous, on l'a dit, on l'a expliqué maintes fois, nous, on est pour du pragmatisme fiscal. Voilà, on l'a dit, mais comme c'est nous, personne ne veut l'entendre, personne ne veut le comprendre.
Admettez que c'est un peu flou, il y a rarement gens qui vous disent « moi je suis pour une idéologie complètement stupide au niveau fiscal ».
Mais non, c'est pas flou, c'est-à-dire qu'on prend le réel. Comme le disait, je crois, Marc Bloch, et j'espère alors là ne pas me tromper, hein, il faut se hisser au niveau du réel, hein. Il faut hisser, en tout cas, c'est pas Maurras qui l'a dit, je vous le garantis. Il faut se hisser au niveau du réel. Bon, c'est de quoi les gens ont-ils besoin, mais qu'on ait la modestie de prendre en compte le réel et d'essayer de le traiter. Je dis pas qu'on y arrive toujours. Alors bien sûr, quand on va à la télé, à la radio, faut donner l'impression qu'on sait tout, qu'on a toutes les solutions. Mais moi, j'ai plus envie de jouer ce jeu, voilà.
Vous n'avez pas de solution.
Si on a des solutions, mais faudrait-il encore qu'on soit au pouvoir? Faudrait-il encore qu'on ait toutes les manettes, tous les paramètres? On les a pas. Mais bien sûr, moi, la première chose que je ferais, si vous voulez, c'est de faire une espèce de grand cahier des doléances. Que les préfectures ouvrent des cahiers? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? De quoi avez-vous besoin? On est à l'heure du cahier des doléances. Sans référence aucune à la Révolution française, bien sûr.
Est-ce que vous allez, vous, au Rassemblement National, vous rapprocher des Gilets jaunes? Est-ce qu'il est possible pour vous d'accueillir des Gilets jaunes en votre sein? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a déjà beaucoup d'électeurs du Rassemblement National dans ce mouvement, Gilbert Collard?
Enfin, moi, je suis moralement un gilet jaune. Moralement, et donc je le porte, mon gilet jaune. Hein.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous souffrez des taxes sur le gasoil?
Ça veut dire que... Mais arrêtez de vous... Si je peux me permettre. Hein.
Vous pouvez tout vous permettre.
Non, je ne me permettrai pas tout. Mais les taxes sur le gasoil, c'est une réalité qui cache d'autres choses. On ne peut pas considérer que ce mouvement ne porte que la revendication des taxes sur le gasoil. Vous verrez, dans peu de temps, ça va être étudié de près par des sociologues, il dit autre chose, ce mouvement. Mais est-ce qu'on a encore l'oreille suffisamment humaniste pour l'entendre? Il dit autre chose, qui est de l'ordre de l'identité, de l'ordre de la culture, de l'ordre du territoire qui fout le camp, de l'ordre de la parole qu'on n'entend plus, de l'écoute qu'on ne prête plus, de l'insupportabilité de vivre ensemble.
Mais vous en faites pas un peu trop, Gilbert Collard, parce que...
Pourquoi?
On comprend bien que le plein est cher, que la vie est chère, mais quand même, on n'est pas dans un pays en guerre, les choses vont relativement bien, on a célébré l'armistice...
Vous avez lu le reportage du Point sur l'insécurité? Vous l'avez lu?
Non. Je l'ai lu, on en a même parlé ici la garde des Sceaux, mais je vois pas où est-ce que...
Et Colomb, quand il s'en va du ministère en disant que on est au bord de la guerre civile, il délire?
D'abord, il n'a pas exactement dit cela. Ensuite, j'ai pas l'impression. Il a dit qu'il y avait un certain nombre de dangers, mais que j'ai d'ailleurs évoqué auprès de Nicole Belloubet quand elle était dans ce même studio, à votre place.
Mais ça vous suffit pas, non, pour vous être prêt?
Je pense qu'il faut relativiser. Et donc, même si, effectivement, Gérard Collomb a pointé un certain nombre de dangers, effectivement, vous avez raison, il l'a fait. Est-ce que le rôle
Oberton, des responsables... vous l'avez lu, vous dites Oberton, vous devez le détester.
Il faut dire aux auditeurs qui est Oberton s'ils ne connaissent pas. Oberton est un auteur plutôt d'extrême droite qui
Il est forcément mauvais, quoi.
Non, mais il faut le situer. Vous savez, Gilbert Collard.
Mais moi, voyez-vous, il serait d'extrême gauche, ça me dérangerait pas s'il dit des choses vraies.
Bien entendu, mais enfin, en tout cas, le point sur lequel il insiste,
mais
c'est
vous,
une France
vous croyez
qui
vraiment
est dans
qu'il est d'extrême droite, civile. Vous, Bertone ?
Écoutez, je l'ai interrogé. Il a plutôt tendance à se défiler lorsque on l'interroge sur son appartenance politique. Mais après tout, peu importe. Vous avez raison. L'important,
mais
c'est
de
savoir.
Mais il y en a d'autres qui se défilent, qui sont pas forcément d'extrême droite.
Tout le monde peut se défiler.
Vous êtes de quel parti, vous ?
Écoutez, moi, j'essaye d'entendre tous les points de vue, mais j'ai du mal à entendre le vôtre aujourd'hui. Parce que vous avez fait état d'une certaine détresse des Français.
Non, mais attendez. Non,
mais j'ai l'impression que vous noircissez un peu le tableau. Je vous soupçonne un peu de faire de la politique, finalement, avec la souffrance des autres.
Oui, Gilbert bien sûr. Collin. Non, mais c'est comme vous faites des émissions. Voilà, bien sûr.
Vous
bien
faites
sûr.
De la politique, moi je fais des
bien
émissions.
Bien sûr, ben voilà. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Hein. Bon, que vous ne me compreniez pas, ça ne m'étonne pas. Parce que vous êtes... excusez-moi, on se parle librement. Vous pouvez
envoyer
toutes les vacheries que vous voulez, je les accepte. Hein. Vous êtes formaté.
Ah!
Vous êtes formaté.
J'attendais ça.
Et vous ne voulez pas entendre ce que je vous dis. J'essaye, si vous voulez, de vous parler honnêtement. Et vous dites, je fais de la politique. Bon. Alors, je peux utiliser la langue de bois. Vous direz, là encore, que je fais de la politique. Je vous dis quoi, moi? Je vous dis simplement qu'on est en présence d'un phénomène qui nous dépasse et qui nous met en cause, vous, moi, les politiques, les journalistes, parce qu'on n'a pas été capable, vous, de commenter la vraie souffrance, nous, de trouver des solutions pour apaiser cette vraie souffrance.
Sur le fond, il y a quelque chose de très paradoxal quand on vous écoute ce matin, Gilbert Collard. Oserais-je dire d'un peu fourre-tout, puisqu'on est passé des présocratiques à l'attaque sur le carburant, en passant par Laurent Oberton. Vous nous dressez un constat qui est effectivement très grave, dramatique, que beaucoup partagent. Il ne viendrait pas à l'idée de quiconque de dire que tout va bien aujourd'hui pour tout le monde dans ce pays. Vous nous dites c'est gravissime, et en même temps vous nous dites je ressens une forme d'impuissance politique et je n'ai pas vraiment de proposition à faire ce matin.
Écoutez. Là, vous voyez comme quoi vous avez cette surdité dont parlait.
Non, mais c'est étonnant quand même.
Non, mais parce que je ne vous ai pas dit ça. C'est ça le problème. Vous devriez enlever vos écouteurs ou je sais pas. Bon.
Au contraire, je vous entends d'autant mieux avec.
Non. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ne m'entendez pas, mais écoutez-moi. Ce que je dis, c'est que on doit avoir l'honnêteté, disons la modestie, de reconnaître que ce mouvement, quelque part, dans ses sous-bassements, c'est le terme que j'ai employé, vous ferez remarquer, nous échappe. Bon, dans l'immédiate, les solutions, c'est d'abord de prendre en compte cette insaisissabilité dans les souterrains de ce mécontentement.
Donc vous laissez quelques mois pour diagnostiquer avant d'avoir des solutions,
bien sûr, c'est
ce que vous nous dites ou pas ?
C'est pas médiatique, c'est pas France Culture, c'est pas bon de dire il faut réfléchir. Ah non, vous voulez que je vous donne une solution ?
Si, on est partisans du temps long, évidemment.
La preuve, c'est qu'on me fait reproche de dire il faut. Mais du reste, tous les commentateurs le disent. Hein, il faut prendre le temps, il faut prendre le recul, il faut. Mais la réalité, c'est qu'il y a une souffrance. Alors je vais vous donner mon analyse. Moi, il y a une souffrance économique. Il y a une souffrance identitaire. Il y a une souffrance culturelle, il y a une souffrance sécuritaire, et il y a une souffrance de la relation à l'autre. Il faut traiter tout ça. Pour le faire, on peut pas être dans l'opposition. Faut arrêter de se raconter des histoires. Pour le faire, il faut être au pouvoir, et avoir la volonté de le faire.
Avoir un programme.
La volonté de le programme, nous l'avons, mais bon. Il est décrié, mais c'est normal, du reste, tout le monde a le droit de... Moi, je suis pour le renversement continuel du pour et du contre. Vous critiquez, tant mieux. Bon, mais je pense que tant qu'on n'aura pas le moyen de mettre en œuvre notre pouvoir, on ne pourra pas savoir exactement ce qu'on peut donner. Votez pour nous un jour, vous verrez.
Et en attendant, est-ce qu'il est possible, par exemple, pour les élections européennes, Gilbert Collard, que le Rassemblement National profite, par exemple, de ce mouvement de colère à l'encontre de la politique d'Emmanuel Macron ?
Mais vous croyez qu'il a besoin de vouloir en profiter ?
J'ai du mal à comprendre cette phrase.
Écoutez, j'ai l'impression que tous ces mouvements, ici, ailleurs, expriment un mécontentement, ça va au-delà, je ne trouve pas le terme, hein, un mécontentement que nous avons structuré, dénoncé, analysé depuis longtemps. Donc, il me semblerait normal que ce mécontentement ne nous détesta point.
Une dernière question rapide de Frédéric Saïs.
Qui est liée, on a les élections européennes maintenant dans environ 6 mois, mais 2019. Est-ce que le Rassemblement National, selon vous, dans cette liste qu'il devra présenter aux Français, ferait bien d'intégrer une ou plusieurs personnalités issues des Gilets jaunes ?
Ce serait une bonne idée, mais à ce moment-là, ça politiserait le mouvement, donc ça serait la négation même de ce que les Gilets jaunes veulent faire. Mais je pense que les Républicains ne demanderaient pas mieux, les Insoumis ne demanderaient pas mieux, voire même En Marche, qui prend tout ce qui passe sur la route, ne demanderait pas mieux. Hein.
Merci Gilbert Collard.